Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci de votre confiance. C'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Et ce matin, plusieurs d'entre vous réagissent au résultat définitif des élections législatives au Bénin. Des résultats qui ont été annoncés en pleine nuit par la Cour constitutionnelle et qui confirment la victoire de la mouvance présidentielle et le retour de l'opposition au Parlement. Le parti démocrate, qui est désormais donc la principale formation de l'opposition et qui conteste les résultats. Bonjour Louis.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Cotonou et vous comprenez, vous, la réaction des opposants?
Oui, je peux dire que je comprends la réaction des opposants, puisque juste après le vote, la fermeture du vote, on a vu quelques tendances publiées sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on ne va pas fier à ça. Et donc l'opposition qui avait remporté, surtout dans les grandes villes du Bénin, s'attendait à ce que le chiffre qu'on lui attribue soit au-delà de ce que la Sénat a donné finalement. Et donc dire que c'est une contestation, l'opposition est dans son plein droit.
Alors, elle est dans son droit de contester, bien évidemment. Elle a d'ailleurs 10 jours pour déposer les recours devant la Cour constitutionnelle. Bon, l'opposition dénonce des bourrages d'urnes, des achats de votes. Il va falloir maintenant apporter les preuves, et des preuves fiables, Louis.
Il va falloir vraiment apporter les preuves, parce que tous les Béninois, je peux affirmer ainsi, ont une confiance en la Cour constitutionnelle, le juge du contentieux électoral, qui entre-temps même avait facilité ou avait ordonné la Sénat d'accepter les dossiers, n'est-ce pas, des démocrates. Et donc aujourd'hui, tout le monde a la confiance en cette Cour constitutionnelle et attend à ce que l'opposition apporte les preuves réelles, les preuves palpables pour permettre à la Cour constitutionnelle de voir, de critiquer ou bien d'apprécier ces différentes preuves afin de donner raison à l'opposition.
Vous restez en ligne, Louis. Je vous présente Albert. Il est à Abomey-Calavi. Bonjour Albert. Bienvenue sur RFI, Albert. Vous disiez au standard ne pas comprendre, vous, la réaction des opposants du parti les démocrates. Vous ne comprenez pas cette volonté de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle.
Je ne comprends pas cette volonté de déposer des recours. Déjà, comme disait tout à l'heure mon prédécesseur, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves selon lesquelles il y a eu fraude et autres. Les preuves se trouvent sur les réseaux sociaux. On ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir présenter les preuves. Et de l'autre côté, moi je pense que les démocrates, le nombre de députés qu'ils ont aujourd'hui, ils doivent quand même se réjouir par rapport à 2019.
En 2019, excusez, Albert, en 2019, ils n'ont pas pu participer aux élections législatives. Là, ils participent. À vous entendre, ils doivent se contenter de la troisième place. Alors, eux disent, et je reprends le verbatim, hein, j'ai sous les yeux la déclaration d'Éric Koundéte, le patron des démocrates, qui disait avant-hier en pleine nuit, si je retrouve, je retrouve la phrase exacte. Ce verdict ne reflète pas la volonté du peuple de faire de notre parti la première force politique du pays.
Oui, c'est ce nombre de députés qui ont les 28 ne reflète pas la première force politique du pays. Mais il faut savoir que ce soit l'UPR ou bien le DR qui sont des partis de la mouvance, c'est des recrutements de nombreux partis qui sont à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas seulement un seul parti comme les démocrates, c'est plusieurs partis qui sont à l'intérieur et ils veulent déposer, ils ont bien peut-être déposé le recours. Pour moi, un tel recours ne pourrait pas aboutir.
Bon, on verra quelles sont les preuves déposées sur le bureau de la Cour constitutionnelle. Louis, une réaction peut-être au propos d'Albert?
Mais bon, dire qu'ils n'ont pas de preuves, c'est passer à côté. Mon cher ami, je dirais tout simplement que si l'opposition a décidé de déposer un recours, c'est parce que l'opposition compte sur quelque chose. L'opposition compte sur quelques chiffres donnés de ça et là. L'opposition compte sur peut-être certaines preuves qui ont été recueillies. Et si ce grand parti politique aujourd'hui qui a fait son retour sur la scène politique béninoise a dit qu'il va déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle, cela voudra dire que sur leur table, ils ont des preuves, ils ont peut-être des preuves rapportées sur le terrain pas les représentants, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque bureau de vote, il y a un représentant de chaque parti politique. Et donc, ces partis politiques-là, ces représentants, sont venus avec peut-être des preuves.
Bah, on verra
ces preuves constituées peuvent être déposées sur la table de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai foi parce que
vous
je sais
foi.
Que la Cour
bon.
Constitutionnelle...
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez confiance, entièrement confiance en la Cour constitutionnelle. Je vous interromps, Louis et Albert. On aura l'occasion, évidemment, de vous redonner la parole sur la vie politique béninoise une fois que la Cour constitutionnelle aura, oui ou non, validé définitivement les résultats qu'elle a proclamés donc, hier nuit. 33 9 693 693 70, c'est la libre antenne. Ousmane, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes au Sénégal, vous êtes à Dakar, c'est bien ça Ousmane ?
Oui, c'est bien ça, c'est je suis à Dakar comme ça.
Et vous nous interpellez sur le sort du journaliste sénégalais Papa Lénian. Je rappelle que mardi, la justice l'a remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. C'est en soi une bonne nouvelle, mais en même temps, vous dites Ousmane, c'est insuffisant.
Oui, c'est insuffisant, en tout cas vraiment, vu les conditions qu'on lui demande de faire, de venir chaque fois... signé à la Cour de justice, là je dis que c'est insuffisant parce que ça influe sur la liberté d'expression au Sénégal. Parce que là, Papa Alignan, quand on le sait, c'est un journaliste d'investigation qui vraiment fait des enquêtes pertinentes sur les dossiers scandaleux au Sénégal. Vraiment, sa liberté provisoire, moi je ne suis pas satisfait de ça.
Ouais, pour vous, liberté provisoire ne signifie pas vraiment liberté, puisqu'effectivement, il n'a pas le droit déjà de s'exprimer sur le dossier qui est en cours, sur cette affaire, il n'a pas le droit de quitter le territoire sénégalais, il doit se présenter une fois par mois au cabinet du magistrat. Vous attendez quoi Ousmane finalement, la levée des poursuites ?
Oui, là vraiment, moi j'attends la levée des poursuites à son encontre, parce que... vu que Papa Alignan fait d'excellent travail au niveau des enquêtes qu'il mène sur les scandales de la République ou bien pour quelconque dans le pays, là, moi, j'attends vraiment qu'on lève les poursuites à son encontre.
Il est poursuivi, je le rappelle, Ousmane, pour divulgation de documents de nature à nuire à la défense nationale.
Bon, dans ce cas, parce que les poursuites qu'on lui fait à son encontre, là, moi, je dis que c'est pas suffisant parce que là, ce qu'on lui poursuit, c'est déjà présent au niveau des réseaux sociaux avant qu'il fait la sortie sur ce dossier-là. Donc là, on veut lui faire taire, on veut lui interdire son travail d'investigation
donc
sur les dossiers scandaleux.
Pour vous, c'est la liberté de la presse qui est en danger au Sénégal.
Oui, c'est la liberté d'expression, bien la liberté de la presse qui est en danger au Sénégal, vraiment. Là, je suis désolé de le dire quand... Oui, c'est ça.
Bon. Merci Ousmane de nous avoir interpellé sur le sort de notre confrère Papa Lénian. Et d'ailleurs, toutes les semaines, hein, vous êtes quelques-uns à nous appeler pour dire vendredi dans la Libre Antenne, nous souhaitons parler de Papa Lénian. Et on continuera, si vous le souhaitez, bien évidemment, la semaine prochaine. On repasse au standard avec d'autres sujets. Fofana, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Conakry ?
Oui, évidemment, je suis à Conakry.
Et on salue tous les Guinéens qui nous écoutent. Et comme de très nombreux Guinéens, Fofana, vous suivez le procès du massacre du 28 septembre 2009. Cette semaine, et on le suit grâce à l'un de nos correspondants, Mathias Reynal, mais aussi Mouktarba, on suit ce procès et on a suivi la comparution encore de Moussa Dadis Camara, l'homme fort du pays à l'époque des faits en 2009. Et vous nous interpellez justement, Fofana, sur le comportement... De Moussa Dadis Camara à la barre.
Oui, évidemment. Au fait, Moussa Dadis Camara donne l'impression qu'il s'estime encore président de la République de Guinée et qu'il doit être considéré comme tel, même devant un tribunal. Chose qui est sincèrement le contraire le plus éloquent de sa position actuelle. J'ai comme impression, même s'il le dit souvent, qu'il est accusé comme les autres, mais dans sa tête, ce n'est pas un accusé, n'importe lequel, c'est un président de la République devant un juge criminel, donc il doit être considéré comme un président et non comme n'importe quel autre citoyen en infraction.
Et c'est parce qu'il se croit encore peut-être président ou qu'il doit, il estime devoir être traité comme un ancien président qu'on peut expliquer peut-être tous ces excès de colère. C'est vrai qu'on a entendu des extraits tout au long de la semaine et on voit qu'il perd facilement son sang-froid.
Au fait, d'abord, on pensait comme cela serait tiré à terre, parce qu'il il a été quel président ? Un président issu.
Bon, on va pas refaire l'histoire. Sur le procès en tant que tel, Fofana, vous qui le suivez, qu'est-ce qui vous interpelle ? Avez-vous appris des choses ? Est-ce que vous avez l'impression que ce procès va dans le bon sens ?
Le procès, disons, le cours du procès n'est pas si mauvais que ça. Par contre, moi, j'ai relevé quelques points noirs, tantôt sur le comportement des accusés, comme Dadis en l'occurrence, tantôt sur le comportement, bien évidemment, de quelques avocats de la défense. Et il va falloir que le président use de l'essentiel de son impérium, qu'il use de toutes les prérogatives que lui confère la loi pour faire régner l'ordre public dans la salle. Parce que l'ordre est menacé tantôt par Dadis lui-même, tantôt par ses avocats. Et le président, qui a la police légale des audiences, doit user de toutes les forces que la loi lui donne pour réguler.
Et il le fait. Et il le fait. Bon, moi, je ne suis pas comme vous, Fofana. Je ne suis pas au quotidien toutes les audiences, mais il arrive au président du tribunal, de suspendre l'audience et de la reprendre quelques minutes plus tard pour calmer la tension dans la salle. En tout cas, Dadis Camara doit de nouveau comparaître lundi prochain. On continue à suivre ce procès qui passionne la Guinée avec nos correspondants Mouktar Ba et Mathias Reynal. À bientôt, Fofana. Rappelez-nous quand vous le souhaitez, évidemment, pour commenter l'actualité de votre choix. Oui, allez-y.
Je vous rappelle, à très vite.
À très vite, n'hésitez pas, on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Le retour en Côte d'Ivoire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le mois de juillet. Vous avez été très nombreux lundi à souhaiter réagir à cette actualité. On y revient ce matin, notamment avec Nina. Bonjour Nina.
Oui, bonjour Juan.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous nous parlez de l'avenir des relations entre Abidjan et Bamako, d'autant que le président ivoirien a, dit-on, de nouveau invité le colonel Goïta à Abidjan pour essayer de réchauffer les relations entre les deux pays.
Oui, tout à fait. Bon, en fait, si cette information que nous avons apprise dans la presse est confirmée, cela démontrera une volonté de tourner la page et de reprendre des relations cordiales et amicales et normales avec le peuple du Mali. Nous l'avons bien constaté durant tout le discours du président de la République à l'accueil des 46 soldats, où il a plusieurs fois utilisé les termes de frères, pays amis. Nous avons bien ressenti qu'il était important que les relations deviennent normales. Et de toutes les façons, je pense que ces deux pays n'ont même pas le choix. Et ils ont plus intérêt à s'entendre.
Bien sûr. Excusez-moi Nina, je vous écoute attentivement. J'ai encore en mémoire les propos d'un auditeur lundi, quand on vous a fait tous réagir au retour des 46 soldats à Abidjan. On tourne la page et l'auditeur me dit non, on ne pourra pas tourner la page. C'est grave ce qui s'est passé. 20 ans de prison pour les 46 soldats, condamnation à la peine de mort par contumace pour les 3 soldats. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, tourner la page de cette affaire.
C'est sûr, c'est un processus qui va prendre du temps, parce que après, ça laisse quand même des séquelles. Hein. C'est vrai que les dirigeants, à un certain niveau, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour revenir à la normale, mais ça a quand même laissé des séquelles au niveau des deux peuples. Et on l'a bien vu sur les réseaux sociaux, les réactions durant ces 6 mois de part et d'autre. Mais comme le disait le président Houphouët Boigny, si vous me le permettez, la Côte d'Ivoire ne peut pas demeurer une oasis de paix, de stabilité, de prospérité au milieu d'un désert d'instabilité, de pauvreté et de misère. C'est-à-dire que nous avons un devoir de solidarité. vis-à-vis de nos pays frères et voisins. Parce que notre stabilité en dépend. Donc, nous sommes obligés à un moment donné de nous mettre au-dessus. Et c'est le message qu'il faut passer aux populations.
En tout cas, en début de semaine, le président Ouattara et le colonel Goïta se sont entretenus au téléphone. Nina, ne raccrochez pas. Moïse, vous parliez des réseaux sociaux. Moïse nous a contactés via les réseaux sociaux. Il est à Bamako, justement. Bonjour, Moïse.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RFI.
Et merci de votre confiance Moïse. Vous êtes au Mali, vous souhaitiez prendre la parole, on vous écoute. Vous comprenez la réaction de Nina, vous êtes d'accord avec elle?
Oui, bon, plus ou moins, hein, quelquefois, parce que ce qu'elle dit, ça va prendre du temps, c'est tout un processus en réalité. Mais ce que je voulais quand même préciser dans ce qu'elle a évoqué, c'est que pour que les relations puissent se normaliser plus rapidement, c'est à la Côte d'Ivoire de véritablement jouer le jeu. Parce que c'est le Mali qui s'est senti agressé dans ce qui s'est passé. Donc, c'est à la Côte d'Ivoire de venir vers le Mali et de créer ce climat de confiance et de donner l'impression aux Maliens que franchement, ce qui s'est passé pouvait être traité comme étant une erreur, considéré juste comme étant une erreur et que franchement la Côte d'Ivoire n'a rien de vouloir déstabiliser le Mali.
Donc, le président, Moïse, lorsque le président ivoirien invite le colonel Goïta, est-ce que ce n'est pas un geste, une main tendue justement?
Oui, ça fait ça. On peut effectivement le considérer ainsi, mais bon, là, c'est un peu quand même minimisable à mon avis, parce que là, ce qu'il fallait, c'est le contraire. Moi, je vois plutôt que si le président de la République de Côte d'Ivoire avait eu le courage de faire une visite officielle au Mali pour expliquer au président malien, voilà, voici, il y a eu quand même une incompréhension. Aujourd'hui, nous regrettons, voici, revenons à des meilleures relations, et puis voilà. Il n'y a pas de problème à cela. Mais si c'est le contraire qu'il demande à ce que Assimi fasse une visite officielle, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais je ne vois pas tout de suite que le président malien accepte cette visite.
Bon, bah écoutez, on verra ça. En tout cas, aucune date n'a encore été fixée, n'a encore été annoncée, officiellement tout du moins. Dossier à suivre. Merci infiniment, Moïse. Merci de votre confiance à Bamako. Nina, bonne journée à Abidjan. Il nous reste 3 minutes. Il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels vous suivez. Y réagir. On va parler football et bon et cette polémique qui secoue le monde du football français, l'affaire Noël Le Graët. Bonjour Herman.
Oui, bonjour.
Le patron de la Fédération française de football, plus que jamais sur la sellette et vous comprenez, vous faites partie de tous ceux qui estiment qu'il serait temps peut-être qu'il dégage, pour dire un mot un peu fort.
Mais je pense qu'il faut qu'il démissionne. Hein, il est simple pour lui de pouvoir démissionner, c'est le poisson qui pourrit de la tête, démissionner et toute son équipe, c'est-à-dire que le coach, les membres de la fédération doivent se remettre en cause. Donc, lui, Le Graët et Deschamps doivent prendre le courage de démissionner,
Deschamps, comme l'a fait le capitaine. Deschamps aussi, mais en quoi Deschamps est-il responsable des affaires de harcèlement qui secouent la fédération? En quoi Deschamps est-il responsable des propos scandaleux à l'endroit de Zinedine Zidane?
Non, mais ça représente, lui, Deschamps, à travers sa prolongation, ça prouve que l'homme qui l'a fait prolonger dans une cuisine, il faut le dire ainsi, n'était pas dans ses esprits. La Fédération française de football n'est pas une famille où deux personnes se retrouvent dans un coin pour prolonger. Donc cette prolongation du contrat de Deschamps devrait être mise en cause et lui-même courageusement devrait démissionner pour donner à la France un nouveau vent, c'est-à-dire un nouveau président, un nouveau coach, un nouveau capitaine que moi je vois à la personne de Mbappé ou Pogba qui en...
Herman. Ah, Herman. Bon, ben on a perdu Herman. Herman était bien parti. Hein. Herman réclame la démission de tous les membres de la Fédération française de football, de tout le COMEX, le comité exécutif. Bon, il y a déjà l'avenir de Noël Le Graët qui est en jeu. Il est pour l'instant mis en retrait. Certains disent que bon, il ne sortira, quoi qu'il arrive, pas indemne de cette affaire. On suit tout ça, évidemment, avec avec le service des sports de RFI. Merci à tous, c'était passionnant comme tous les jours. On se retrouve évidemment lundi avec vos questions à la rédaction. Vous nous appelez dès maintenant, on a besoin de connaître vos questions avant de démarrer l'émission, forcément, pour contacter comme ce matin nos correspondants, je pense à Anissa El Jabri à Moscou, pour que les experts, les chefs de service de RFI soient dans ce studio pour répondre à vos questions. Donc le standard reste ouvert et lundi on parlera de l'assainissement de Kinshasa. Et oui, Kin se prépare à accueillir le pape.
Présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.